France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Et ce matin, direction les Champs-Élysées, où le théâtre Marigny fut un haut lieu du spectacle musical du temps d'Offenbach à la Seconde Guerre mondiale. Un glorieux passé avec lequel souhaite renouer le nouveau directeur de Marigny, Jean-Luc Choplin. Il rouvre les portes dans quelques jours avec Peau d'âne de Michel Legrand et sera mon invité pour nous faire partager sa passion du théâtre chantant. Jean-Luc Choplin à ce micro dans quelques minutes. Le temps d'un saut en Italie et d'une petite chanson swing, comme on savait très bien les trousser là-bas, au temps de Charles Trenet et de Ray Ventura.
Di rimpetto sembra un vero varietà, c'è un simpatico terzetto, mamma, figli ed il papà. Con la radio d'occasione fanno a gara tutti e tre per sentire ogni canzone e cantarle poi da sé. La famiglia canterina dalla sera alla mattina, zitta zitta piano piano fa in sordina il trio Vescano. Chi vuol sempre Boccaccini, chi l'orchestra di Angelini, chi orecchi spalancati per Alberto Ravagliati. Mamma vuol la melodia, ma la figlia invece vuol il maestro Petralia. Quando fa un accordo in sol, il papà si mette in lista, vuol sembrar Pippo Barzizza. Sbaglia il tempo, ma che fa, tanto Pippo non lo sa. Quando il sole è già lontano, ogni luce sparirà, ma la radio al quinto piano sempre accesa resterà. Mentre tutto il vicinato finalmente può dormir, un fracasso indiavolato li risveglia lì per lì.
La famiglia canterina, dalla sera alla mattina, zitta zitta piano piano, fa in sordina il trio Lescano. Chi va sempre Boccaccini, chi lo che fa di Angelini, chi sa orecchie spalancati per Alberto Ravagliati. Mamma vuole la melodia, ma la figlia invece vuole il maestro Petralia. Quando fa un accordo in sol, il papà si mette in lista, vuol campar Pippo Barzizza. Sbaglia il tempo, ma che fa, tanto Pippo non lo sa.
Mamma vuole Biancastella, l'altra vuole la carrozzella, e papà canta in sordina la Madonna Fiorentina, mentre lei con sentimento canta vieni in braccio a me. Lui sospira vento vento, te la porti via con te.
Ma da quando c'è Bonino canta lei con inquilino, e la sogna da lontano quando zitta il trio le fa.
La famille Canterina, le chanteur Ernesto Bonino avec le trio Lescano, une chanson du début des années 40. Alors évidemment, c'était le fascisme, c'était la guerre, mais c'était aussi le temps de l'esprit Zazou d'un côté comme de l'autre des Alpes. J'adore tout ce répertoire italien que m'avait fait découvrir il y a quelques années dans cette émission mon ami Francesco Rapazzini. Certains d'entre vous se souviennent peut-être, il nous avait fait entendre des quantités de chansons italiennes de cette époque et il vient de publier un très joli livre intitulé Un été vénitien. Je vous en reparlerai tout à l'heure, c'est l'histoire d'une adolescence vénitienne, donc d'un jeune homme de cette ville dans les années 70, au temps où nous-mêmes nous écoutions énormément de musique de cinéma italien.
Thank you.
J'adore la musique de Nino Rota en général, mais rien autant que les vraies bandes originales des films. Là, c'était Les Vitelloni, un film de 1953. On reprendra tout à l'heure le petit chapitre italien après l'interview de mon invité.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et mon invité, je vous l'ai dit, vient de reprendre la direction du théâtre Marigny, mais nous l'avons bien connu pendant des années au Châtelet, où il nous a proposé des quantités de spectacles musicaux, notamment américains, mais pas seulement. On en reparlera. Là, il ouvre donc le 14 novembre à Marigny avec justement une comédie musicale tirée du film Peau d'âne de Michel Legrand et Jacques Demy. J'ai le plaisir de recevoir ce matin Jean-Luc Choplin.
La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois, mais une fille et son père, c'est ma foi, un échec assuré, une progéniture altérée. Mon enfant, il vous faut oublier à présent fantasme démoralisant, et vous rencontrerez un charmant va-nu-pied ou un prince mendiant. Mais de grâce, oubliez cet hymen insensé. Mon enfant, la vie vous offrira ses présents, mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. Mon enfant, ne craignez pas les égarements. Je vais vous éclairer brillamment. Je vais vous protéger. J'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé.
Christiane Legrand dans Peau d'âne en 1970. Bonjour Jean-Luc Choplin.
Bonjour.
Pour vous, ça c'est le modèle de la comédie musicale française, on peut dire, même s'il y a eu beaucoup de choses qui se sont succédées ces dernières années dans les théâtres. C'est le mélange de Demy Legrand.
Oui, c'est d'abord une très belle partition. Oui. C'est ce que, pour moi, la base d'une comédie musicale, ça va être une belle partition, une grande partition. Et la musique d'abord. La musique qui raconte l'histoire, mais je veux dire la musique d'abord. Donc moi, quand j'ai une musique comme ça, ben je fonds et je suis partant.
Mais je me rappelle quand même une conversation avec Michel Legrand il y a quelques années. Évidemment, le projet n'existait pas encore. Il m'avait dit, évidemment, adapté à la scène Les Demoiselles de Rochefort ou Les Parapluies, ça va presque de soi. Peau d'âne, ce serait beaucoup plus compliqué.
Alors non, parce que Les Parapluies, c'est très difficile de l'adapter à la scène. J'en ai fait une version oratorio au Châtelet en 2014, je crois. Et j'avais pensé en faire une vraie œuvre scénique et une comédie, enfin musicale, si tant est qu'on l'enferme dans une catégorie. Et ce qui me manquait, c'était les ensembles.
Ouais.
Il n'y avait aucun ensemble. Ouais. C'était qu'un quatuor, enfin je veux dire. Ouais, donc c'était vrai. Très difficile d'en développer. Alors, on n'avait pas un chœur de soldats qui partait à la guerre d'Algérie. On n'avait pas quelque chose qui pouvait être une véritable action scénique. Peau d'âne, la difficulté, j'y avais pensé aussi pour le théâtre du Châtelet. Peau d'âne, la difficulté, c'est qu'il n'y avait que 38 à 40 minutes de musique. Oui. Et alors quand vous voulez faire une œuvre musicale, il me manquait de la musique. Donc la difficulté était, il fallait réécrire des chansons, donc qui les réécrivait. Donc on trahissait l'œuvre de Demy Legrand en quelque sorte en faisant ça. Alors là c'est un peu différent. J'entre dans un théâtre musical, mais il y a les deux mots, théâtre.
Oui.
Musical.
De plus petite dimension aussi.
De plus petite dimension. Et donc, je pouvais jouer avec ces deux jambes pour marcher, que sont le théâtre et la musique. Et voilà, donc, je me suis dit, ne rajoutons rien, soyons purs et faisons cette création.
Voilà, et c'est donc avec cette œuvre que vous avez choisi d'ouvrir ou de réouvrir le théâtre Marigny, dont vous prenez la direction, Jean-Luc Choplin. J'ai envie de dire, quand on arrive dans un théâtre comme ça, On s'y balade, on sent la personnalité du théâtre. C'est quoi la personnalité de Marigny pour vous, après ces quelques mois de préparation avant l'ouverture?
Je vais vous surprendre, mon cher Benoît. Ouais. Pour moi, c'était tous ces noms qui étaient marqués à l'extérieur du théâtre. Et qui était Offenbach, qui était Hervé, qui était à Lévis, qui était Scribe, qui était Audran, qui était Planquette, qui était Lacombe.
Oui, vous les savez bien, malheureusement, ils ont disparu du fronton.
Oui, oui, mais on ne vous inquiétez pas, on en reparlera. Mais je veux dire, c'était aussi, c'est évidemment, Offenbach. Alors, on dit toujours Offenbach, non, c'était juste à côté, hein, vous savez, c'était la petite salle qui était derrière, près de la fontaine aujourd'hui, qui est à l'arrière du théâtre, la salle dite La Case, qui était les bouffes d'été. Et c'est là où était Offenbach.
Où Offenbach a fait ses premières créations importantes.
Ses premières créations. Donc je ne peux pas prétendre être le successeur d'Offenbach. Donc il faut rester très modeste, puisque c'est dans le cirque d'été, donc ce bâtiment à 12 côtés, vous voyez, qui était d'abord un bâtiment équestre, avant d'être transformé de multiples fois.
Et donc vous vous remontez volontiers à ce Marigny-là, le Marigny du théâtre musical de la fin du 19e siècle.
D'ailleurs, c'est très amusant, parce que. Il y a la même histoire, parce que le cirque d'hiver et le cirque d'été ont à peu près les mêmes architectures. Ouais. Que d'autre part, c'est les personnes qui s'occupaient du cirque qui, à l'époque, quand on a ouvert complètement le boulevard du crime pour détruire tous ces théâtres et qu'on a relogé le grand cirque national olympique, on l'a installé au Châtelet. Et le Marigny, c'était le cirque d'été, le lieu des festivals d'été avec les CAFCONS tout autour. C'était donc déjà du grand spectacle populaire et en même temps la musique qui était là. Et puis après la succession des noms que l'on a déjà cités, c'était bien sûr beaucoup de musique, beaucoup d'opérettes, beaucoup d'œuvres musicales et puis plus tardivement du théâtre. Donc voilà, je me suis dit, je vais revenir aux racines.
Ça fait plaisir, écoutez, de voir un directeur aussi brillant et talentueux que vous l'êtes, on le sait, reprendre un théâtre en lui redonnant sa vocation musicale. On va évidemment discuter beaucoup de ce que vous avez envie d'y faire, qui peut forcément pas être la même chose qu'au temps d'Offenbach, mais il y aura sa place apparemment.
Et on va première année.
On va commencer par remonter un peu dans le temps. Je ne sais pas si c'est le temps de Jean-Luc Chopin, parce que c'est quand même quelques années avant votre naissance, en 1946. Les Trois Cloches, Les Compagnons de la Chanson avec Édith Piaf.
Village au fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré. Voici quand la nuit étoilée, un nouveau-né nous est donné. Jean-François Nico. C'est pour Jean-François Nico, c'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre au jour. À peine une flamme, entre faible qui réclame protection dans ton amour.
Village au fond de la vallée. Loin des chemins, loin des humains, voici qu'après 19 années, qu'avant les mois le Jean-François prend pour femme la douce Élise, blanche comme fleur de palmier, devant Dieu.
Pure flamme, l'élève qui proclame la
grandeur de votre amour.
On connaît la voix de Fred Mella que j'avais le plaisir de recevoir ici même, voici quelques semaines ou quelques mois, Jean-Luc Chopelin. Ici donc, Les Trois Cloches, grand succès des Compagnons en 1946. Oui, je disais, vous n'étiez pas né, mais vous aimez cette chanson.
Je suis né trois ans après.
C'est la musique de votre enfance.
C'est ce que on écoutait à la maison. Enfin, mon père adorait les Compagnons de la chanson. Mon père avait été à la maîtrise de Notre-Dame de Paris. Il avait été choisi par Vidor pour...
Le grand Vidor lui-même.
Donc, les Compagnons de la chanson, je crois qu'il y avait une connaissance. Enfin, mon père, je ne sais plus comment, enfin, il y avait en tout cas des... Donc, on écoutait les Compagnons de la chanson et voilà, donc...
C'est votre bain musical de la petite enfance.
Notamment, mais ça m'a toujours créé beaucoup d'émotions, particulièrement cette chanson que je tenais aujourd'hui à faire réécouter, car il n'y a rien de plus beau. Enfin, je veux dire, c'est magnifique, en variété populaire, comme ça, c'est...
Ah oui, c'est très...
C'est très, très touchant.
Mais si votre père avait été petit chanteur, il y avait donc une formation musicale, il écoutait aussi de la musique classique, etc.
De la musique classique, oui, je passais beaucoup de temps à écouter la symphonie fantastique de Berlioz.
Ah oui.
Je prenais les aiguilles à tricoter de ma mère et je la dirigeais devant le miroir en pensant que je deviendrais un grand chef d'orchestre.
C'était à Angers, ça?
Après, à Châtenay-Malabry. Donc dans la banlieue sud-parisienne.
Mais vous n'avez jamais envisagé vous-même de devenir petit chanteur ou chanteur ou grand chanteur?
Non, mais musicien.
Ah, ça vous y avez pensé?
J'ai fait l'école normale de musique à Paris, je suis flûtiste, j'ai beaucoup joué de la flûte.
Vous en jouez toujours?
Et j'en joue occasionnellement, là à l'heure actuelle j'en joue un peu avec mes petits-enfants. Donc voilà, notamment j'ai deux petits-enfants qui sont bien à la flûte, vous rendez compte?
Voilà, alors ça c'est le bain français. Et puis, il y a une chose très marquante pour vous, comme pour tous ceux qui y sont allés à cette époque, ça a été la découverte dans les années 70 de New York et de l'atmosphère américaine et de la vitalité culturelle qui était alors, en tout cas, celle de cette grande ville.
Oui, c'est après la guerre du Vietnam, enfin, tous ces performeurs dans les rues, ce mouvement post-moderne, c'est pour moi la rencontre.
Vous y alliez pourquoi, vous ?
J'y allais pour la curiosité, qui n'a pas rêvé de New York, en quelque sorte, parce que j'avais... pris la responsabilité d'un lieu absolument incroyable qui était la Sainte-Baume, en Provence, lieu de pèlerinage jusqu'à Louis XIV. On allait chaque année, c'était plus important que Lourdes à l'époque. Même tous les rois allaient à la Sainte-Baume puisque c'était le lieu, la grotte de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, la légende des Saintes-Maries. Marie-Madeleine qui s'était retirée dans cette grotte, et puis il y avait une abbaye, enfin il y avait un monastère dominicain et un responsable de ce monastère qui voulait créer un festival, une académie d'été, je ne sais pas comment on appelait ça.
C'est là que vous avez fait vos premières armes d'organisateur de spectacle.
Et donc je m'étais dit, je vais faire venir les mouvements post-modernes américains, notamment en danse avec... Trisha Brown, Merce Cunningham, Lucinda Child, beaucoup de gens.
John Cage
qui est venu, qui m'a fait de très belles créations sur le lieu. Mais il y avait aussi Henri Pousseur, il y avait André Boukourechtiev, il y avait.
C'était votre période post-sérielle.
Il y avait Taïra, il y avait beaucoup de personnalités qui vivaient en France et qui créaient de la musique en France qui y venaient aussi. Donc c'était une fête de la musique et de la danse, là-haut sur la montagne, les aigles étaient là et inventaient le futur.
Mais a priori, à cette époque-là, peut-être je schématise un peu, mais c'était assez rare qu'on aime à la fois John Cage et la comédie musicale de Broadway, que vous avez pourtant découvert à peu près au même moment et avec le même enthousiasme.
Avec le même enthousiasme, parce que si vous voulez, quand vous... entrer dans un théâtre à Broadway, au départ, c'est toujours un peu par hasard. C'est bon, on vous dit, il y a New York, c'est Broadway, d'accord. Okay, bon, donc après, on a plus ou moins de culture par rapport à ça. Mais et que vous découvrez Candide.
Voilà, bah justement, tiens.
Donc, si vous voulez, je me souviens toujours de cette expérience incroyable où je sors dans la rue après Candide et je pouvais chanter à tue-tête toute l'ouverture. Ouais. Presque, ce qui est chantable.
Pas le grand air de Jim Anderson qu'on va écouter maintenant.
Je pouvais pas faire l'air de Cunégonde, mais je pouvais en tout cas faire une partie d'ouverture la plus chantante. Je pourrais vous la refaire aussi, mais je crains pour les auditeurs qu'ils ne quittent cette émission, donc je ne le ferai pas. Mais, vous découvrez cet esprit qui ne sépare pas, qui Bernstein, qui peut diriger le New York Philharmonic, qui en même temps écrit toutes ces choses absolument formidables pour Broadway, West Side Story,
bien sûr,
On the Town et tellement d'autres choses, qui commettra aussi même un opéra avec The Quiet Place et tout ça, et Trouble in Tahiti, qui est une partie d'ailleurs de Quiet Place, mais, enfin, et puis qui a dirigé même à Paris l'Orchestre National. Donc voilà, c'est une culture qui ne sépare pas. Le mot entertainment en anglais, ça vaut pour culture et entertainment en France, et divertissement.
Vous savez que moi, ça me rappelle toujours, vous parlez de Bernstein, ça me rappelle toujours André Messager, qui dirige la première de Péléas, qui écrit des œuvres sérieuses, et puis surtout...
Les petites Michues,
Véronique Michu, et le reste.
Qui ont eu un énorme succès à Broadway.
Voilà.
Ce qu'on ne sait pas.
Sauf que souvent. Ce mélange-là, il existait encore à Broadway dans les années 70, alors que malheureusement, il n'existait plus à Paris.
C'est un mélange, oui. Et puis, dans les années 1920-1930, voilà, on a Messager, qui est un des plus grands chefs d'orchestre à Londres, et qui, en même temps, créera Coudrouli à Marinier.
et Monsieur Beaucaire.
Et Monsieur Beaucaire aussi, à Marinier.
Aussi. Voilà. Jean-Luc Chopin. Bah, alors, revenons. Alors, le choc, en somme, c'est quand même Bernstein.
C'est Bernstein.
Donc, c'est Candide.
Déjà quand même du sérieux. voilà. Mais après, je découvrirai Rodgers et Hammerstein et beaucoup d'autres.
Alors, on va écouter, bah, justement, oui, je disais l'air de June Anderson, parce que j'adore cette version, et c'est évidemment l'air de Cunégonde dans Candide.
Voltaire, les Lumières,
La France. Voilà. Paris, New York, c'est un sujet, ça.
Et son rayonnement international. C'est ce qui me touche beaucoup.
Jean-Luc Chopin sur un trottoir à Broadway à la sortie d'un spectacle, vous venez de l'entendre.
Oui, enfin, c'était pas moi, là. Enfin, j'aurais bien voulu pouvoir faire ça avec June Anderson, absolument.
Voilà, c'était le merveilleux Candide que vous avez d'ailleurs monté au Châtelet.
Dès la première année.
dès la première année.
Je voulais commencer les comédies musicales par quelque chose qui soit en même temps en relation avec la France. Je trouvais que c'était très intéressant de voir que un compositeur américain prenait évidemment ce livre qu'on avait tous étudié quand on est en classe
première. Je crois que c'est le seul livre que tous les Français ont lu parce qu'on l'étudie généralement à l'école.
Les extraits, oui, voilà. En général, c'était les passages sur la fin, notamment sur cultiver votre jardin.
Voilà,
tout ça, etc.
Voilà.
Donc, mais je trouvais que c'était très joli de faire ça et ça a été un choix très volontariste.
Voilà, évidemment, et un chef-d'œuvre qu'on ne se lasse pas de voir. Mais il faut dire aussi que vous avez quand même symboliquement, quand vous avez repris la direction du Châtelet, vous voulu ouvrir avec de l'opérette, avec notamment la première année Le Chanteur de Mexico, et avec le même metteur en scène que vous avez choisi pour ouvrir Marini cette année, Emilio Sagui.
Oui, là aussi, c'est un petit clin d'œil. Enfin, je me suis beaucoup amusé à le faire. Je veux dire, voilà, on essaye de trouver comme ça des liens. Il est évident que Chanteur de Mexico, ça avait été pour moi la volonté de boucher ce trou noir qui était cet envoi aux enfers de Lopez, qui est un merveilleux mélodiste.
Oui, c'est vrai.
Un peu à la fin, c'était un peu répété, donc c'était devenu un peu ennuyeux. Puis mai 68 était passé par là, donc l'opérette...
Mais c'est vrai qu'autant du chanteur, il y a une magie...
Voilà. Mais Chanteur de Mexico, pour moi, c'était montrer qu'on ne cloisonne pas, qu'il n'y avait aucune raison de séparer, surtout quand la musique est bonne.
Ouais.
Donc, et puis l'opérette, j'avais demandé à Emilio de Sahi, qui pouvait le faire de façon un peu à la Almodovar, enfin qui pouvait le détourner.
Aujourd'hui, on dirait déconstruire.
Déconstruire, oui, enfin, c'est pas trop déconstruire, c'est assez construit. Mais alors, Emilio, dans les nombreuses conversations, puisque je lui ai fait faire plusieurs œuvres au Théâtre du Châtelet, je savais qu'il était un grand amoureux de Demy et de Legrand. Il avait chez lui tous les films qu'il les regardait très souvent. C'était un homme qui adorait les plasticiens comme Yves Klein, comme les Raphaélites, et qui avait une belle expérience du théâtre, de l'opéra et de l'opérette, puisque la Zarzuela,
qu'il a
dirigé
aussi
pendant des années,
Châtelet,
et on avait monté une Renerala, des Zarzuela qu'il avait monté en Espagne, qu'on avait reprise. Donc voilà, je fais des liens, je m'amuse à faire que les choses soient un peu rhizomatiques, qu'elles sortent là où on les attend pas.
Voilà, alors ça a été d'ailleurs dès, je pense, la deuxième saison aussi, je m'en rappelle bien, parce que j'avais eu la joie d'y participer un peu, la production de Véronique, qui a été aussi un choix personnel, là encore.
Tout à fait, lié à des amours, des souvenirs, j'adorais les airs
de Véronique, les duos notamment.
Et puis
avec Fanny Ardant, qui avait donc fait la mise en scène dans un merveilleux décor.
Voilà, un plasticien aussi. Je tenais à ce que les plasticiens, plutôt que les décorateurs, reviennent devant. Et puis je trouve que le lien maintenant messager. Et avec Marini, ça s'impose,
ça
et c'est
revient.
Amusant. Là encore, si vous voulez, on a dans la même saison, vous avez Emilio Sahi qui vient faire une opérette sur l'émission, et Véronique. Donc c'est, je ne me lasse pas de toutes ces choses qu'on peut tisser comme ça, de ces entre-là.
Il est risible, ma parole.
Je suis de là, Quincara, chemine, va trottine, va petite âne, va de-ci de là, Quincara, le picotade recommencera.
De-ci
de là, Quincara, va chemine, va trottine, va petite âne, va de-ci de là, Quincara, le picotade recommencera. De la voir si joyeuse, je me sens triste malgré moi.
Que c'est amusant, Nana, le capricieux entre nous.
Bien moins encore entendez-vous que la coquette qui me donne.
De-ci de là,
Quincara, va chemine, va trottine, va petite âne, va de-ci de là, Quincara, le picotade recommencera.
De-ci
de là, Quincara, va chemine, va trottine, va petite âne, va de-ci de là, Quincara, le picotade recommencera. Mais en cueillant des fleurs dans l'herbe, elle accueillit mon cœur, je crois.
Dans l'eau que l'on mène bien vite,
bien je voudrais à huis clos interroger la Marguerite.
De-ci, de-là,
qu'un carat va chenille, va trottine, va petit âne, va de-ci, de-là, qu'un carat le picotat récompensera.
De-ci, de-là,
qu'un carat va chenille, va trottine, va petit âne, va de-ci, de-là, qu'un carat le picotat récompensera.
Michel Danse et Maddy Mesplet, qu'on salue si elle nous entend, dans ce duo de Véronique d'André Messager, monté par vous, donc à l'époque où vous étiez Jean-Luc Choplin, directeur du Châtelet. Monté d'ailleurs, je me rappelle, et c'est toujours intéressant de le signaler, avec une légère sonorisation, parce qu'il y a toujours une question qui se pose quand on dirige un théâtre, c'est il y a les œuvres qu'on a envie de monter, et puis il y a aussi les œuvres qui correspondent ou non à la dimension du théâtre où on travaille.
Et le Châtelet est une grande salle.
Très grande. Donc, trop grande pour beaucoup de d'œuvres.
Dès que vous avez des dialogues parlés, et brusquement avec des enchaînements musicaux, il y a un tel décalage que ça crée quelque chose qui ne marche pas. Alors évidemment, dans un tout petit théâtre, c'est différent. Donc ce qui était plus à l'époque le cas. Donc là, pour le Châtelet, voilà, on avait fait une légère amplification. Pourquoi refuser la technologie? Pourquoi refuser la technologie? On peut toujours être puriste.
Je pense qu'il vaut mieux le faire.
Il y a un débat. Moi, j'ai de temps en temps des gens qui m'écrivaient en disant, oui, mais alors vous avez sonorisé. Ben oui, mais on a des micros aujourd'hui, on a des sans-fil, on a une numérisation du son qui est parfois tout à fait merveilleuse, parfois c'est moins bien. Et donc on peut utiliser la technologie pour servir les œuvres. Donc moi j'ai choisi d'opter pour la modernité. Enfin, bon,
est-ce que les dimensions du théâtre Marigny, l'équilibre entre la fosse que vous avez exhumée, si je puis dire, parce qu'elle ne servait plus, et la scène et la salle, ça permet de faire des choses plus intimistes peut-être qu'au Châtelet?
Je crois. Enfin, cela m'a excité, enfin, disant d'abord de retrouver la fosse, donc et de pouvoir.
Qui n'avait jamais servi depuis très longtemps. Hein.
Non, alors que c'est dommage. Une jolie fosse.
Au moins, elle n'avait pas été supprimée.
Non, ça servait de rangement. Donc,
voilà,
sous la scène. Donc, puisqu'elle est très sous la scène.
Oui. Mais elle, voilà, ce qui est plutôt bien. Comme ça, l'orchestre ne joue pas trop fort. Il joue toujours trop fort, les orchestres.
C'est comme à Bayreuth. C'est sous la scène. Donc, voilà. Donc, on pourra. C'est formidable d'avoir cet outil-là. Et puis, on va voir. J'ai le sentiment, effectivement, que dès qu'on se met à parler, c'est très présent tout de suite.
Alors, au Châtelet, j'y reviens encore un petit peu, parce que ça intéresse évidemment tous nos auditeurs passionnés d'opérettes et de théâtre musical léger. Vous avez donné une programmation festive, merveilleusement toujours mise en scène et interprétée, avec l'opérette française et aussi beaucoup, évidemment, la comédie musicale qui a pris une place même plus importante au fil des années, avec d'un côté les grands classiques, Roger Sammerstein et quelques autres, My Fair Lady, et puis Sondheim, qui a été, on peut dire, aussi un personnage central dans l'aventure du Châtelet.
Personnage tout à fait merveilleux et dont...
Que la France ne connaissait pas tellement, finalement.
La France ne connaissait pas du tout.
Oui.
Personne ne savait qu'il avait créé les lyrics de West Side Story, Maria, Maria.
Oui.
Personne ne savait que c'est lui qui avait écrit cette merveilleuse chanson, cet air absolument extraordinaire. Donc,
vous l'aviez vu à New York dans vos jeunes années
Non, malheureusement, je ne le connaissais pas. J'ai appris à le découvrir, et puis j'avais évidemment écouté quelques-unes de ses œuvres, et cet amoureux de Satie, cet amoureux de Ravel, cet amoureux de Rachmaninoff, le Brahms, est un grand admirateur de la culture française. Chaque fois qu'il vient à Paris, ou quand il est venu en tout cas du temps du Châtelet à Paris, il allait à la maison Maurice Ravel en pèlerinage. À chaque fois, à Montfort-l'Amaury.
On est quand même assez loin de ce qu'on appelle aujourd'hui la comédie musicale telle qu'on la produit à Londres et à New York pour des tournées qui durent des années.
C'est pas la même chose, c'est un autre genre. C'est du théâtre musical. Pour moi, enfin, le problème de ces catégories, ces appellations qu'on donne aux choses, on les enferme dans des boîtes alors qu'il faudrait ne pas le faire. Mais je me souviens d'une discussion qu'on avait eue sur une des dernières œuvres que j'ai produites de lui, qui est Passion, tirée d'un roman italien, du film d'Ettore Scola, Passion d'amour. Donc, à la Générale, donc nous avions Nathalie Decez, avant il faisait le rôle donc de Fosca, qui était absolument extraordinaire. Et j'avais demandé à un plasticien de faire tout l'environnement, un plasticien français, Guillaume Durieux, pour la première fois, un jeune plasticien qui faisait une œuvre 3D. Et à la Générale, je me retourne et il y avait donc Sondheim qui était assis derrière moi et qui avait vraiment une larme à l'œil. Et je lui dis, vous qui n'aimez pas l'opéra, Vous avez vu, vous en avez écrit un. Donc, il me dit, oui, c'est vrai. Donc, voilà, c'est le problème des catégories. Et puis, des œuvres, oui, on n'est pas du tout dans la légèreté, là.
J'ai entendu dire plusieurs fois le mot qu'aurait prononcé Sondheim, comme quoi ses œuvres avaient été mieux montées au Châtelet qu'à Broadway. C'était une politesse ou c'est...
Non, pas du tout. Parce que, écoutez, quand il venait au Châtelet, tous les soirs, il était au théâtre. Et alors que je lui disais, mais... vous savez, il y a des tas de choses à voir à Paris, vous qui aimez tant la musique française, etc. Et il me disait, attendez, c'est la seule fois de ma vie où je peux écouter mes œuvres dignement.
La seule fois.
Ah oui, non, parce que quand on prend, par exemple, Little Night Music, que j'ai faite, que j'ai vue à Londres, à New York, Little Night Music, c'est fait avec 7 musiciens, à New York ou à Londres. Je lui ai demandé de faire une orchestration pour 46.
Eh oui. On va écouter un petit extrait, justement, de cette œuvre que j'adore.
Diffusing its usual glow. 5 o'clock, twilight, Christmas sound, and it's 6 o'clock, twilight, all around. But the sun sits low as it's going to go.
8 o'clock, twilight,
how enthralling it's.
9 o'clock,
twilight,
slowly crawling towards.
10 o'clock,
twilight,
crickets calling the vespers ring. The nightingale's waiting to sing. The rest of us wait on a string. Perpetual sunset is rather an unsettling thing.
La valse de nuit au début de Little Night Music de Sondheim, très très belle musique, ça c'était la production originale, quelques années donc avant celle magnifique que vous avez montée Jean-Luc Chopin au Châtelet, une façon de célébrer aussi l'amitié si on peut dire artistique franco-américaine avec par exemple Leslie Caron qui était venue sur scène pour l'occasion.
Que j'ai retrouvé quelques années après quand j'ai décidé de faire un Américain à Paris.
Aussi,
voilà,
exactement.
Voilà. Je ne lui ai pas demandé là, de refaire son rôle, mais elle nous a accompagnés dans ce projet magnifiquement.
Alors Jean-Luc Chopin, je vais être tout à fait clair, moi j'admire beaucoup toutes les productions que vous avez montées, toujours avec beaucoup de talent, et j'aime ce répertoire, mais j'ai parfois, vous le savez, le sentiment qu'au fil des ans, l'équilibre que vous aviez voulu entre l'opérette, mais aussi pourquoi pas la zarzuela, la comédie musicale, c'est quand même un peu modifié au profit principalement de la comédie musicale, parce que vous adorez ça, vous la montez très bien, et que vous avez un petit peu laissé nos chères opérettes françaises de côté au Châtelet.
Oui, je le regrette après coup.
Hein, donc,
je le regrette après coup. Et si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait aussi une équation. Évidemment, le public n'a pas à savoir, mais qui est une équation économique. Mm-hmm. Et à partir du moment où vos subventions, si vous voulez, diminuent ou sont très restreintes et que les coûts, par ailleurs, augmentent, il me fallait faire de longues séries. Mm-hmm. Enfin, bien que c'était à Paris au début.
Vous pensez qu'aujourd'hui, à Paris, on remplit facilement plus une longue série avec une œuvre américaine qu'une œuvre française?
J'ai créé cette chose-là. C'est-à-dire, le public français ne connaissait pas les comédies musicales et les grands classiques de Broadway. Ouais. Mais quand vous affichez des œuvres qui ont été très connues par le film, comme My Fair Lady, comme La Mélodie du Bonheur, Sound of Music, etc., votre probabilité de faire des longues séries, si vous voulez, alors que quand j'ai fait Véronique, j'aurais aimé faire une longue série avec Véronique.
Par exemple.
J'en ai fait que, je sais pas, 12, 14. Enfin, je veux dire, donc.
Comme on fait à l'opéra, quoi, en général.
Comme on fait à l'opéra. Et si, et toutes les œuvres françaises que j'aurais pu monter, voilà, j'aurais été limité. La folie avec Le Chanteur de Mexico, c'est que j'en ai fait 45 ans, je me rappelle plus, mais enfin, c'était une.
Mais il y a des Offenbach qui pourraient tourner pendant.
Alors, mais
pendant
ça, c'était fait aussi. Mais c'était fait par d'autres.
Oui.
J'ai quand même fait La Belle Hélène.
C'est vrai.
Donc, voilà. Donc, si vous voulez, il faut aussi relativiser, parce que. J'ai, sur ces 12 années passées au Châtelet, j'ai fait 74 productions. J'ai fait les créations françaises. Fait les créations françaises. Gérard Pesson, par exemple, avec donc cette pastorale qui était une très belle œuvre. Mais sur 74 productions, je n'ai fait que 24 comédies musicales, dont 5 Sondheim. Donc voilà, alors, c'est vrai qu'il y a un déséquilibre, c'est vrai qu'il y a des choses que j'aurais voulu faire au Mont Bel Inconnu ou que sais-je.
Voilà, des choses comme voilà, ça. Donc, voilà, vous faites plaisir, je sens que vous allez faire tout ça à Marigny.
Eh bien écoutez, voilà, écoutez, il faut bien se réserver des espaces pour le futur.
En tout cas, pour vous prouver que j'aime moi, alors réellement, toutes ces comédies musicales que vous adorez, il y a aussi une chose qui, je trouve, qui manque terriblement en France, qu'on programme jamais. Ce sont les grands classiques de la comédie musicale des années 20, c'est-à-dire avant Roger Hammerstein, les choses plus légères, de Gershwin, de Humans, etc.
Un Américain à Paris.
Certes.
C'est un Gershwin, qui n'est pas fait vraiment par Gershwin.
Voilà.
Puisque c'est un
film. Toutes ces petites comédies musicales très délurées, comme on a.
Jérôme Kern.
Comme on a écrit aussi Jérôme Kern.
Que j'ai produit.
C'est vrai, c'est un très beau spectacle.
Que j'ai produit, qui est un très très beau spectacle, si vous voulez, avec ses airs absolument exceptionnels. Avec l'opéra d'Afrique du Sud, avec l'opéra de Cape Town.
Et des œuvres qu'on montait même parfois à l'occasion. En français, dans des adaptations. Et moi, vous allez voir, je trouve que ça ne marche pas si mal quand c'est fait par des grands interprètes.
Non, non, Nanette, c'est jour et nuit, le refrain qui me poursuit. Non, non, Nanette, mon grand plaisir a réfréné mes désirs. Bien sûr, tout me sera permis lorsque j'aurai des cheveux gris. Mais pour l'instant, c'est tout le temps. Non, 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 Nanette.
Pauvre Tommy, la l'air vexé, nous ne voulions pas l'offenser. Faudra-t-il jamais nous excuser?
Qu'il boude après tout.
Il doute de vous.
Je n'ai rien fait pour le pousser à bout.
Songez que d'un faux mouvement, parfois vos petits innocemment blesser un cœur très profondément.
Pourquoi me gronder et me sermonner? Cela va donc encore recommencer. Non, non, Nanette, c'est jour et nuit, le refrain qui me poursuit. Non, non, Nanette, on prend plaisir à réprimer mes désirs. Bien sûr, tout me sera permis lorsque j'aurai des cheveux gris. Mais pour l'instant, c'est tout le temps. Non, 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 Nanette. C'est si bon de faire ce qu'on veut. Je me laisserai repousser les cheveux. J'aurai les robes les plus jolies.
Nanette, attention, pas trop d'ambition.
Je ferai toutes sortes de folies. Je matcherai Suzanne Lenglen, je conduirai ma Citroën. Et si tout cela ne suffit pas,
mais ma parole, elle devient folle.
Je deviendrai vedette de cinéma. Non, non, Nanette, c'est jour et nuit, le refrain qui me poursuit. Non, non, Nanette, on prend plaisir à réprimer mes désirs.
Nono Nanette de Vincent Humans, comme on le chantait en France depuis les années 30, dans une adaptation française assez bien faite. Évidemment,
bien
c'est chanté par Liliane Berton.
Une vraie merveille. Que du bonheur.
Voilà. Mais vous avez quand même, Jean-Luc Choplin, d'une façon générale, pris le parti de donner les œuvres américaines en anglais. Le parler, le chanter, comment est-ce que vous pensez la chose?
Je me suis souvent dit que je pourrais faire des adaptations. La difficulté, c'est que ça a toujours été pensé avec une telle liaison entre la musique et le texte. Oui. Les traductions françaises prennent tellement de temps, souvent. Oui. Donc, après, pour les placer sur la musique, on est obligé d'utiliser des mots qui sont pas forcément adéquats. Moi, quand je vais écouter un Shakespeare, j'ai bien quand même le voir en anglais. Donc, je vais aussi à la Comédie Française voir des traductions bien faites. Cadio, par exemple, pour La Nuit des Rois. Merveilleuse traduction. Mais, if music is full of love, je préfère l'entendre en anglais que d'avoir la traduction en français.
Voilà.
Et donc, Give me access, en fait.
C'est vrai. Voilà. Mais il faut penser que les adaptations de l'époque avaient été souvent faites par des très bons artistes, des très bons artisans, et que peut-être il y en a quelques-unes qui mériteraient d'être,
tout à fait,
d'être reprises. Alors, Jean-Luc Choplin, vous avez quitté le Châtelet maintenant depuis...
Fin janvier 2017.
2017. Donc, et puis vous êtes allé faire un petit tour à Boulogne, Billancourt, à la scène musicale, mais voilà, c'est une expérience qui visiblement n'était pas tout à fait celle que vous cherchiez.
C'est toujours un peu difficile.
Okay, enfin, sans langue de bois.
Sans langue du bois, c'est un peu toujours difficile à expliquer. C'est-à-dire, on m'a demandé de venir donner un coup de main pour ouvrir cette scène musicale.
Avec ces deux salles extraordinaires.
Et éventuellement y rester, enfin voilà, donc pas de problème. Moi, je suis essentiellement un homme de production.
Oui. Et de théâtre
musical. Enfin, donc, là, si vous voulez, c'était essentiellement un lieu d'un côté avec ce magnifique auditorium pour y faire des concerts. Donc là, Laurence Equilbé fait ça très bien avec son orchestre et sous l'orchestre, plus quelques concerts complémentaires que je pouvais programmer. Bon, enfin, bon, c'est que programmer des concerts. Puis de l'autre, la grande salle. Mais la grande salle où j'ai tout de suite essayé de faire des œuvres. J'ai demandé, par exemple, à Bartabas et à Minkowski de venir faire ce qu'ils avaient fait à Salzbourg sur le Requiem de Mozart. Ce spectacle équestre absolument merveilleux.
Bartabas continue d'ailleurs
j'avais programmé avec Nico Franck et le Philharmonique de faire ce programme que Bartabas avait envisagé, la Symphonie des Psaumes et le Sacre du Printemps. Donc ça s'est fait. Il y a encore quelques héritages de ma programmation. Mais c'est un lieu qui ne voulait pas produire, qui voulait que faire de l'accueil. Donc je leur ai dit, écoutez, voilà, j'ai dépanné, j'ai fait la première année et je m'en vais. Alors, ça
vous n'êtes
surpris.
Pas parti fâché.
Pas du tout. Je suis très ami encore avec tous les gens. D'ailleurs, j'y étais à la première du Bartabas l'autre jour et tout va bien.
Mais alors, Marc Ladré de la Charrière, c'est lui qui est venu vous chercher pour Marigny?
Comment ça s'est passé? Tout à fait. Marc Ladré de la Charrière, donc.
Qui est, je précise aux auditeurs, le propriétaire du
voilà,
théâtre Marigny.
Qui a repris et de quelques autres théâtres Marigny à Paris. Et qui a fait cette folie de dire je vais prendre ce joyau de la culture française et je vais en faire quelque chose d'extraordinaire. Donc il a dépensé une vraie fortune, 20 millions d'euros pour la rénovation de ce théâtre, pour en faire vraiment un joyau, d'en faire son vaisseau amiral.
Alors tiens, à propos de la rénovation, je reviens à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Je me suis fait le relais de certaines réactions que j'ai eues de Parisiens amoureux de l'histoire de Paris, comme je le suis moi-même, pour regretter que cette rénovation, très bien faite du Théâtre Marigny par ailleurs, ait gommé les noms des compositeurs qui se trouvaient sur le fronton du théâtre, Offenbach, Hervé, vous les avez cités tout à l'heure. C'est vrai qu'on adore dans les théâtres découvrir ces noms perchés en hauteur qui nous racontent un peu de l'histoire. Pourquoi les avoir supprimés?
Alors parce que sur un plan architectural, on est revenu à une architecture avant ces noms-là. Donc on est revenu...
Ah, plus ancienne.
Plus ancienne, on est revenu à l'architecture 1883, qui est celle de Charles Garnier.
Et
on
ne sait pas. Ces noms n'existaient pas sur le fronton, et la plupart des compositeurs vivaient encore.
Ils vivaient encore, donc ils étaient encore bien actifs.
Donc vous avez été plus puriste,
les célébrités, les noms sont apparus au tout début du XXe siècle seulement. Donc il fallait être très pur, mais ne vous inquiétez pas, la vie ne procède pas par soustraction, mais par abondance. J'avais lu votre papier, très bien fait d'ailleurs, et très bien rédigé comme toujours, cher Benoît, sur cela. Et votre émotion est tout à fait légitime. Et donc, nous retrouverons tous ces noms, voire même des noms complémentaires, à l'intérieur du théâtre, là où le public quand même vient. Parce que quand vous arrivez la nuit, le grand public qui vient normalement dans votre théâtre, c'est le soir, même si on fait des matinées, même si on fait parfois des spectacles de 19h, là, le public pourra goûter tous ces noms et puis parfois même retrouvera les œuvres de ces noms sur le plateau.
Et vous dites peut-être même d'autres compositeurs en plus? Vous pensez à qui par exemple?
Des compositeurs que vous adorez, mon cher Benoît, notamment un certain Pierre Boulez.
Mais oui, qui a fait ses débuts au théâtre
Marigny. Qui a créé le domaine musical.
Il faut le rappeler, hein.
Quand il était directeur musical de la compagnie Renaud Barrault et qu'il était Onde Martenotis.
Exactement.
Et percussionniste avec Maurice Jarre dans ce beau théâtre. Et c'est la préfiguration de l'IRCAM, quelque sorte, avec le domaine musical. Donc, bien trouvé ici à Marigny, vous voyez, un lieu de création, de production, d'invention. Et voilà.
Jarre, Boulez, Le Grand. Ils sont tous
Boulez,
contemporains.
Le Grand, élève de Nadia Boulanger.
Thank you.
la musique d'introduction de Podane, le film que j'imagine on entendra
qu'on va
aussi en introduction.
D'ailleurs, qu'on va retrouver en introduction
du spectacle
de Podane avec
voilà,
une merveilleuse distribution
dans quelques jours,
le 14 novembre,
le 14
dans quelques
novembre
jours,
à Marigny.
Les bonnes
réservations.
Les réservations marchent très bien. On est très contents. C'est une œuvre qui est évidemment universellement connue.
Mais alors, c'est pas facile pour votre cher Emilio Sagui. Parce que là, il y a aussi le poids, l'empreinte des images insensées du film. Alors, qu'est-ce qu'il a essayé de s'en inspirer ou il est allé carrément dans une autre direction ?
Non, la direction qu'on a prise, si vous voulez, avec Emilio, c'est celle du rêve. Donc, on est un peu, vous voyez, c'est un peu la Belle au bois dormant. Enfin, en même temps, c'est quelque chose comme ça. C'est un rêve qui est assez logique, ses illogismes. C'est un rêve en bleu, un peu en rouge aussi. C'est une lenteur, une rapidité, c'est une frivolité, c'est pas la photocopie.
Non.
Bon. Mais vous aurez toutes les madeleines de Proust du film.
Du film, d'accord.
Mais en madeleine, c'est-à-dire après vous pouvez les transposer voilà. Donc c'est transposé, très proche. En même temps, donc on a une vraie fidélité, un vrai hommage, et en même temps, une invention d'un spectacle scénique, donc une vraie création. Et c'est ça que je voulais pour le début de Marie-Louise.
La difficulté aussi, c'est quand même que dans Podane, comme d'ailleurs dans tous les films de Millegrand, il y avait quand même un travail de studio extrêmement précis pour faire marcher les voix dans l'esprit d'une narration comme ça, toute simple, avec des artistes de premier plan, comme Christian Legrand qu'on a entendu tout à l'heure. Ça ne doit pas être facile de retrouver ce naturel-là.
Voilà, mais écoutez, là j'ai trouvé une Podane que j'avais d'ailleurs eue il y a 4 ans dans Les Parapluies de Cherbourg, qui est Marie Aupert, et qui joue, chante. C'est un ange qui est tombé du ciel et qui vient de nous rejoindre. Et puis vous avez deux jeunes acteurs, puisque ils vont être en alternance. Mathieu Spinozzi, le fils de Jean-Christophe Spinozzi, violoniste et en même temps
la Belle Hélène,
acteur.
Justement,
il avait été dans plusieurs œuvres. Il avait notamment fait aussi les Vêpres. Oui. Au théâtre du Châtelet, mais au violon. Et puis Olivier Frege, qui chante aussi merveilleusement. Et puis j'ai fait une large place aussi à la danse. Le Roi sera fait par Michael Denard.
Ah.
Donc qui
l'opéra
a
là,
cette présence.
Aussi,
et puis La Reine Rouge par Marie-Agnès Gillot.
Ah oui. Bien.
Donc parce que ces gens, quand ils se déplacent, ils flottent sur le plateau. Donc on est vraiment dans l'univers onirique du rêve.
Alors ça, c'est jusqu'au 17 février, une longue série.
Une centaine de présentations.
On parlera juste tout de suite après du second spectacle, mais vous avez dit d'emblée tout à l'heure que voilà, l'histoire d'opérette de Marigny était importante pour vous. Et il y aura donc également la reprise de Mamselle Nitouche dans la grande salle, là, la production
dont on a déjà parlé ici, du Palazzetto Brusade. Qui a été créée par les Brusade et avec lequel j'entends bien continuer une collaboration.
Peut-être même pour des longues séries.
Et peut-être essayons pour de plus longues séries, il me taquine sous Benoît, donc c'est très bien. Et puis voilà, on va.
Mais alors, mais aussi donc dans la petite salle, des petites formes en hommage, notamment à Offenbach, Hervé, au fondateur de la maison.
C'est Frédéric Mitterrand qui l'ouvre avec un bonsoir. Donc il viendra sûrement commenter lui-même cette création qu'il fait. C'est un hommage à ses livres, à sa vie, à la littérature, que sais-je. Et puis on aura un petit prince, on aura Dominique Pitoiset qui va revenir avec un cabaret.
Ça, c'est très ouvert en fait, dans une petite salle, on peut imaginer mille choses.
Des installations modernes sur la plasticienne Frida Kahlo, la femme de Diego Rivera, et de nombreuses autres.
Alors, j'ai noté, moi, parce que vous connaissez mes obsessions, quand même, ça me fait plaisir, Barbier et Lecoq, ça, ce sera au mois de juin, Charles Lecoq et Frédéric Barbier, deux compositeurs d'opérettes.
Hervé.
Puis Hervé et Offenbach, avec les deux aveugles et le compositeur Toqué, ça, c'est au mois de janvier prochain. C'est monté par qui ?
Alors, c'est monté par nous, je veux dire, et avec, en collaboration avec Brusane.
Toujours avec le Palazzetto Brusane.
Avec le Palazzo Brusane, c'est-à-dire que c'est une coproduction entre les deux maisons.
Et pour moi, c'était l'occasion de ressortir de nos archives lyriques un petit extrait du compositeur Toqué, cette œuvre, comme son titre l'indique, complètement délirante de Hervé, qu'on avait lui-même surnommé le compositeur Toqué, et qui est là, nous raconte un compositeur extravagant en train de composer.
Ah, il n'y a plus de notes. Voilà, c'est ça. Une halte se fait. Et foulant le cerfeuil de leur séant guerrier, ils vont se taper de l'œil. Une esclave debout, près du camp assoupie, leur récite ce chant, cri du Mississippi.
Le cri du Mississippi ? Mais c'est à moi ! Allons bon, je sais plus où ce que je l'ai foulé.
Et vous allez l'entendre. Il a une voix charmante qui tient du soprano, du ténor, de la basse, de la contrebasse et du goujon frit. À part ça, j'espère, monsieur, que vous n'avez pas égaré votre papier.
Allons, monsieur, mais je me rappelle maintenant. Oh, mais je ne sais pas le cœur.
Ah, ben alors chante-le.
Qu'est-ce tri, si barbu, reposez vos armes, que des songes à plein de charme percent vos cuirs chevelus.
Aïe, 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 aïe,
c'est le cri du Mississippi.
Aïe, 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 aïe,
c'est le cri du Mississippi.
Oh, quelle jolie petite natte filée, monsieur.
Oh, mon ami, j'adore le filet.
Mais moi aussi, monsieur, aux pommes de terre surtout.
Second couplet. Qu'est-ce tri,
si barbu, si moustachu et si crépu,
courez aux conquêtes, vos femmes soignent vos têtes et vous reviendrez.
C'est ça. Ligue digue don, ligue digue digue digue, ligue digue don, ligue digue digue don, ligue digue digue, ligue digue digue digue, ligue digue don, ligue digue digue don, ligue digue digue, ligue digue digue digue, ligue digue digue, ligue digue digue don, ligue digue digue, ligue digue digue digue, ligue digue don, ligue digue digue don, ligue digue digue, ligue digue digue, ligue digue don, ligue digue digue don.
Le compositeur toqué enregistré en 1955 par Marcel Cariven, qui dirigeait le petit orchestre lyrique de la radio. C'est avec les moyens du bord, mais c'est une œuvre vraiment très folle qu'on pourra revoir donc à Marigny. Là, c'était Jean Giraudeau avec Jacques Lucioni. Jean-Luc Chopelin, on va malheureusement bientôt se quitter, mais je voudrais encore qu'on dise quelques mots
dommage.
sur la programmation à venir de ce beau théâtre Marigny. Donc, vous avez choisi en deuxième œuvre de la saison, dans ce qui est des grandes séries et de la grande salle, après Peau d'âne. Alors, une œuvre que pour le coup, je ne connais pas, Guys and Dolls.
Guys and Dolls, Blanche Colombe et Villa Messieurs, ce film qui a été adapté en français, avec évidemment des acteurs tout à fait extraordinaires, musique de Franck Lesser, une très très belle musique, et ça fait partie des grands classiques de Broadway, oui, que le public met dans les cinq premières œuvres qu'il, oui, faut avoir vues ou connaître. C'est une histoire.
Mais c'est une œuvre qui est d'abord scénique ou d'abord cinématographique à l'origine?
C'est une œuvre scénique qui devient
devenue cinématographique. Film. Vous avez fait parfois le contraire, c'est pour ça que
parfois
je le rappelle.
Parfois on fait le contraire, comme Sylvie Guitterrez, voilà, comme l'Américain à Paris. Voilà. Je tenais à faire cette œuvre. J'avais voulu la faire déjà plus tôt, mais j'avais tellement d'autres œuvres à faire. Je m'étais dit, bon, je la ferai peut-être un jour ou pas du tout. Donc là, j'avais une opportunité. Je voulais, sur la première année de Marigny, avoir une grande œuvre française et une signature Chopelin, mm-hmm, enfin, qui était devenue un, mm-hmm, peu...
Vous êtes monsieur comédie musicale américaine,
qui est un peu quelque chose pour lequel le grand public vient. Enfin, donc, j'ai marché avec ça. C'est une très très belle œuvre, très grande œuvre, très amusante aussi, et très émouvante. Et donc, voilà, je voulais la programmer très vite.
Une autre petite question que ça pose quand on monte, vous l'avez expliqué pourquoi, les comédies musicales, évidemment, donc en version originale, en langue originale, sans du tout vouloir être étriqué, mais vous êtes à peu près obligé de recruter des distributions entièrement ou principalement américaines pour le coup.
Écoutez, j'ai fait par exemple pour Peau d'âne.
Non, mais je parle pour les œuvres. Est-ce qu'on peut imaginer d'avoir quelques chanteurs français dans des productions de
Broadway?
Ah, mais
c'est ce que nous faisons toujours. J'ai toujours fait au Châtelet. Oui. Et d'ailleurs, si vous prenez une équipe qui était par exemple pour Singing in the Rain, je me souviens, parce qu'on me disait, il n'y a que des anglo-saxons. Ce n'était pas vrai. Si vous voulez, dans la distribution, il y avait à peu près une centaine de personnes, mm-hmm, entre l'orchestre, les chœurs, les danseurs et les principaux acteurs, il y avait 90% de Français.
Voilà, donc ce sont pas des importations pures.
On le sait mal, mais d'abord, ce que je fais, par exemple, quand je vais faire une audition à Londres, il y a des agents de casting, si vous voulez, qui sont là, je demande de me faire venir des Français qui vivent à Londres.
Oui, aussi, déjà aussi. Et qui connaissent le répertoire, et qui l'aiment.
Voilà, donc...
Une autre question que pose votre passage à Marigny, Jean-Luc Choplin, c'est justement le coût du théâtre musical. On sait que si la plupart des théâtres privés de Paris qui ont fait de la musique à une époque ont arrêté, c'est parce que ça coûte beaucoup plus cher que de faire du théâtre parlé. Alors au Châtelet, c'était un peu différent puisque c'était un théâtre subventionné. À Marigny, je pense que Monsieur Ladré de la Charrière sait ce qu'il fait en vous proposant de monter des spectacles musicaux, mais c'est vrai que c'est une économie beaucoup plus difficile, j'imagine.
C'est une économie très délicate. Il faut effectivement faire
ses... À la fois des musiciens et des comédiens, ah ben,
Il faut gérer en bon père de famille. Si vous voulez, là, dans Poda, nous avons enregistré un orchestre symphonique et nous avons un orchestre vivant, donc dans la fosse d'une dizaine de musiciens. Et donc, nous aurons à peu près une vingtaine de personnes sur le plateau, plus tous les techniciens qui doivent servir le spectacle. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde.
Au théâtre, en général, on monte des pièces à trois acteurs parce que sinon, ça coûte trop cher.
Donc, il faut inventer des méthodes qui permettent aussi de faire cela. Donc, si vous voulez, là, vous ne voyez aucune star du théâtre, qui est dans la distribution. Il n'y a pas, donc, et auquel vous devez des royalties sur les recettes, etc., etc. Donc, je suis parti dans une économie un petit peu différente où je privilégie l'œuvre par rapport au paiement des stars.
À l'affiche. Et puis, d'autre part,
je compte sur une exploitation très internationale de l'œuvre. Donc, si vous voulez, l'exploitation internationale de l'œuvre me permet d'espérer même de gagner un peu d'argent. C'est ce que j'ai fait, par exemple, pour un Américain à Paris, pour Siegfried und Roy, où vous avez ces œuvres qui, après, partent, qui sont demandées.
Donc, Podan ou Geisendorf, c'est des œuvres qui sont censées
Il y a des demandes au Japon, en Russie, qui sont très intéressées. L'opéra de Shanghai, par exemple, etc. Et les œuvres seront données, évidemment, en français. Voilà. À Shanghai, on ne va pas le donner en
Podan, bien sûr.
Voilà.
Donc, tout ça est
pourquoi
bien cohérent.
Pourquoi pas d'ailleurs, mais rester cohérent.
Et puis alors, donc, tout ça en attendant les reprises de quelques fleurons du répertoire de Marigny, Venise de Tiarco Richepin, Le Diable à Paris de Marcel Lattès, Coup de roulis, vous l'avez dit, et Monsieur Beaucaire de Messager, La Belle Saison qu'avait créé Lucienne Boyer et d'autres encore. Il y a tout un fond de Marigny. J'espère que vous allez vous plonger dedans, cher Jean-Luc Choplin.
Voilà, puis je prendrai un expert pour m'aider, Benoît.
Et du coup, j'ai ressorti un petit extrait d'une œuvre qui a été créée en version française à Marigny, qui a eu beaucoup de succès entre les deux guerres. Ça s'appelait Chanson d'amour. C'est écrit entièrement sur des musiques de Schubert. Wow. C'était de l'opérette viennoise, un peu sentimentale et charmante. On va écouter ce petit morceau.
Assise au pied d'un lilas, comme monte la sève, le corps trouble et l'esprit là, doucement on rêve. En nos cœurs, un cher désir vient s'épanouir, nos rêves et nos souhaits, confions-nous-les.
Je voudrais ma cave pleine, à tout jamais ne m'allurera.
Je voudrais sans perdre haleine, m'élever dans l'air serein.
Du grand Rubens, moi je souhaite avoir la palette.
Avoir des amis sous mon toit, c'est mon souhait à moi.
Moi j'attends l'âme ravie, celle qui doit changer ma vie. Et quoi ? Et quoi ?
C'est de l'amour qu'on respire et mon cœur soupire. J'attends, j'attends celle qui voudra m'aimer.
Ah, le printemps d'amourale n'est comme une flamme d'un parfum céleste, l'air est embaumé.
C'est de l'amour qu'on respire. On voudrait en vérité rester insensible, mais amour te résister, ce n'est pas possible, car tu veux vaincre et tu vins de tes traits divins, tu sais percer sans remords le cœur des plus forts.
Venez à moi, brune blonde, prête à bouger mes deux flancs.
Quand Venise sortit des ondes, hélas que n'étais-je là.
Je vous chéris, mes mains fidèles, mes petits modèles.
À toutes, je t'en ai ma foi, et sans savoir pourquoi.
Moi, j'attends l'âme ravie,
celle qui doit changer ma vie.
Il croit,
il croit à le printemps dans mon âme, mais comme une flamme de parfum céleste, l'air est embaumé, c'est de l'amour qu'on respire, et mon cœur soupire, j'attends, j'attends celle qui voudra.
Chanson d'amour, une très jolie opérette d'Henri Berthet, créée d'abord en Allemagne et puis à Paris, au Théâtre Marigny, le 7 mai 1921. Là, on a reconnu les voix d'Aimé Donia, d'André Malabrera et quelques autres. Voilà, j'espère, en tout cas, cher Jean-Luc Choplin, que vous mettrez votre incontestable talent de directeur de théâtre aussi au service de ce répertoire-là au cours des années à venir à Marigny.
On va essayer, parce que c'est trop beau.
Voilà, merci. Et puis, tiens, avant de vous laisser retourner là-bas à quelques jours de l'ouverture, je voudrais qu'on parle d'une autre œuvre qui figure dans votre programmation. Là, c'est plutôt dans les petites formes, mais vraiment, la chanson Try to Remember est tellement fantastique que je me suis dit que je voulais vous poser pour finir une petite question sur The Fantastics.
The Fantastics, c'est le plus grand succès off-Broadway de l'histoire.
De toute l'histoire.
De toute l'histoire. Ah ouais. De Broadway et de off-Broadway. Ouais. Donc, ça a duré 40 ans. Je veux dire, c'était. Mais personne ne sait que c'est tiré d'une pièce d'Edmond Rostand.
Mais voilà, c'est ça qui est très.
L'air romanesque. Voilà, décidément. Que personne n'a lu. Alors, je l'ai lu entre temps. Donc, si vous voulez, c'est trop drôle. C'est le phénomène de Roméo et Juliette. Deux amis, un garçon, père d'un garçon, père d'une fille, et qui se disent : mais comment on peut faire que nos enfants se marient ? Donc, on va dire qu'on est les pires ennemis, et on va interdire à nos enfants de se voir. Et ça marche. Donc, c'est très drôle. Et, et la musique est extraordinaire.
Et décidément, donc, l'histoire de Paris-New York est une histoire inépuisable.
Voilà, mais c'est aussi le rayonnement de la culture française qui part, que quelques intelligents américains prennent et transforment. Et nous, on n'est même pas capable de connaître nos œuvres, donc on n'est même pas capable de connaître les romanesques.
Oui, mais il manque aussi à New York un Jean-Luc Choplin qui montrait les œuvres françaises là-bas, dans un théâtre de Broadway. Alors,
voilà, c'est fini, je pars.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin,
merci
Jean-Luc
beaucoup,
Choplin,
et à très bientôt. Merci à vous.
September, when you were a tender and callow fellow. Try to remember, and if you remember, then follow. Try to remember when life was so tender that no one wept except. Beside your pillow, try to remember when life was so tender that love was an ember about to billow. Try to remember, and if you remember, then follow.
Try to Remember, extrait de The Fantastics, que vous retrouverez donc à Marigny, ce sera au mois de mai prochain. Et puis donc, dans quelques jours, le 14 novembre, c'est la réouverture du théâtre avec Peau d'âne de Michel Legrand, d'après le film de Legrand et demi. Ce sera suivi au printemps par Guys and Dolls et encore par Mamselle Nitouche, tous ces spectacles sous la houlette de Jean-Luc Choplin, qui était ce matin mon invité.
La valse de la lagune de Johann Strauss-Fils, tirée de son opérette Une nuit à Venise. C'était l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Laurine Mazel.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et ça tombe bien parce que justement je voudrais terminer cette émission par un petit épisode vénitien.
Laisse les gondoles à Venise. On n'ouvre pas les valises, on y si bien. Laisse au loin les pyramides, le soleil de la Floride. Mets-nous un peu de musique et prends ma main.
Tu es venu me chercher tout à l'heure.
Moins de deux. chaud, laisse-les gondoler l'avenir.
Ah, les œufs au jambon, Shella et Ringo. Voilà l'idée, en tout cas, que je me faisais de Venise quand j'avais 17 ans et que j'écoutais le hit parade. Et puis, il y avait quand même aussi le cinéma italien que j'adorais, les comédies de Rizzi, Comencini, Fellini et aussi, bien sûr, La mort à Venise dans un genre plus grave. C'est ainsi, en tout cas, que je rêvais d'Italie à la fin des années 70. Francesco Rapazzini, lui, avait 17 ans à Venise, où il a grandi, et il le raconte dans un très joli roman intitulé « Un été vénitien ». Francesco Rapazzini, vous vous rappelez, il est venu plusieurs fois dans cette émission nous parler de chansons italiennes, et puis plus récemment de ses livres sur Damia ou sur le Moulin Rouge. Aujourd'hui, c'est un véritable vénitien de Paris. Il publie donc en français ce troisième roman aux éditions Bartilla, « Un été vénitien », roman très remarqué, qui est d'ailleurs en lice pour le prix Décembre, c'est la vie d'un tout jeune homme à Venise, à cette époque où il y avait moins de tourisme, mais pas moins de cosmopolitisme. Et c'est ce qui fait toute la saveur de cette vie quotidienne vénitienne, des bandes de copains, des premiers amours, et parfois même des bains dans l'eau du canal. Voilà, alors pour illustrer ce roman de Francesco Rapazzini, j'ai ressorti aussi une autre petite chanson justement sur la vie quotidienne à Venise. Là, c'est dans les années 50, en 1954, Marietta monta in gondola, la chanson qui raconte comment un garçon propose à sa fiancée de monter sur la gondole afin de la conduire au Lido.
Costa far del sì e del no, mole un ponto, mole un ponto. Costa far del sì e del no, mole un ponto tutti do.
Marietta monta in gondola che mi te porto al Lido.
Mi no e che non mi fido, ti è massa un impostor.
Cosa te disi cocola, perché per quel boschetto
ti mascroca un vasetto per pisigarmi il cuor.
E ti che ti che ti te disi no, ma mi so che te batte il cuore. E ti che ti che ta anche ti te osa, che a Venezia l'amor se fa in gondoeta.
Dico no, no che vegno no.
Costa far del sì e del no, mole un ponto, mole un ponto, costa far del sì e del no, mole un ponto tutti do.
Ma guarda che spettacolo, la luna se d'argento.
Non far del sentimento, cosa te vol mi so.
Sora le tonde cupole, svola le colombelle.
E sonte che pur le stelle, ma non che vegno no.
E ti che ti te disi no, ma mi so che te batte il cuore. Ti che ti che ta anche ti te osa, che a Venezia l'amor se fa
in gondoeta.
Dico no, no che vegno no.
Costa far del sì e del no, mole un ponto, mole un ponto. Costa far del sì e del no, mole un ponto tutti do.
Va ben, finimola.
Marietta monta in gondola, une très jolie chanson interprétée par Gloria Christian avec Aldo Alvi. C'est vraiment, voilà, Venise, Venise telle qu'on l'aime et telle que vous le retrouvez dans le livre de Francesco Rapazzini, Un été vénitien. Et tiens, pour illustrer ces liens très étroits entre la France et Venise, eh bien, on va terminer avec le Carnaval de Venise, musique d'un compositeur français, Arban, mais qui parle de Venise et qui a été interprétée par tous les plus grands virtuoses de tous les instruments du monde. Ici, c'est la trompette de Maurice André.
Thank you.
Carnaval de Venise de Jean-Baptiste Arban, interprété par Maurice André avec l'orchestre de Jean Faustin. C'était en 1956. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique José Bernès et Morgane Danan, réalisation Christine Amado. Et bien sûr, on se retrouve samedi prochain, j'aurai la joie d'accueillir Jean-François Kahn. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique, bien sûr. Vous avez rendez-vous maintenant avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.